The Lady is a Tramp, je vous laisse dire le reste, Daniel Lachance.
Oui, donc c'était, je vous avez reconnu, j'imagine, vous connaissiez déjà, c'était Tony Bennett accompagné de nul autre que Lady Gaga.
Ouais, quelle belle voix, ils font un beau duo ensemble.
Très beau duo, et d'ailleurs, ceux qui pensaient que Lady Gaga, c'était seulement une petite chanteuse pop avec des déguisements extravagants qui conviennent le plus souvent à l'Halloween.
Ça fait longtemps qu'on pense plus ça.
Ouais, ben s'il y en a qui le pensent encore,
ben là,
je pense que
réveillez-vous.
Vous devriez changer d'idée.
Ouais.
C'est toute une artiste, c'est toute une chanteuse.
Une grande voix,
une
grande artiste,
musicale.
Ouais.
Oui. Donc,
elle a chanté justement avec les Rolling Stones, Mick Jagger récemment.
Oui,
on pourrait
récemment
venir,
sur leur dernier album, ouais. Je vais vous en parler bientôt, quelque chose d'assez exceptionnel
avec
quand
plaisir.
Même pour un groupe rock de cet âge-là. Donc, M. Tony Bennett, que je ne connaissais pas du tout quand j'étais jeune, puis je vais vous expliquer un petit peu tantôt pourquoi. Bon, donc son vrai nom, c'était M. Anthony Dominic Benedetto.
Est-ce qu'il est né en Italie? Je pense que oui. Hein?
Non, il
ah,
est
pas
né
du
aux
tout. À New
États-Unis.
York?
Ses parents, par exemple, sont nés en Italie.
Okay.
Ils sont déménagés aux États-Unis. Donc, il était né le 3 août 1926. Il avait donc 96 ans. Quand il est décédé en juillet, le 21 juillet 2023. Et lui, il est né à New York et il est décédé à New York aussi. Donc, il a eu une carrière internationale, mais il est décédé dans sa ville natale. Et son père, qui était John Benedetto, lui, est né en Italie. Et c'était à New York, il appelait ça grocer, un épicier, j'imagine. Il tenait une épicerie. Sa mère était une couturière. Et donc, c'était une famille qui, surtout là, avec le coût de la vie à New York, qui ne vivait pas, mettons, dans l'abondance. Il était plutôt dans la misère quand il était jeune. Il était le plus jeune d'une famille de 3 enfants. Il avait une sœur, Mary, et un frère, John Jr. Et son père est décédé quand il avait 10 ans. Donc, c'est ce qui explique un peu
Ah oui.
peut-être qu'ils ont eu de la misère un petit peu là, pendant quelques années. Et sa carrière, ça c'est quand même assez exceptionnel. Il a eu une carrière pendant. Il a débuté sa carrière musicale en 1936 et il a été actif jusqu'en 2021.
Il a commencé jeune à chanter?
Quand même assez jeune et il a chanté longtemps,
Oui.
très très longtemps. Donc, et il a été marié 3 fois. Il faut dire que quand on vit aussi longtemps que ça nous donne le temps aussi d'avoir
On peut se marier
plusieurs vies.
3 fois.
On peut se permettre de se marier 3 fois. Et il était surtout connu pour les chansons plutôt, je dirais, musique jazz, swing, tout ça. Mais au début, on ne catégorisait pas ça autant. Hein. On disait, bon, il fait de la chanson tout simplement, il joue à radio, c'est de la musique populaire, hein, voilà. C'est juste plus tard que les médias donnent des catégories ou les compagnies de disques. Là, je ne sais pas vraiment d'où ça part, mais il y a tout le temps quelqu'un qui décide de coller une étiquette. Mais avant même de commencer sa carrière en musique, il a été dans l'armée américaine à l'âge de 18 ans. Je ne sais pas si ça devait être le service obligatoire à l'époque, j'imagine, ça l'est peut-être même encore à partir de 18 ans. Donc, à partir de l'âge de 18 ans, il était dans l'armée américaine. Et il était en Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de 1944 à 1946, il était dans l'armée en Europe. Il combattait contre l'Allemagne et il a reçu
En
une
1946, la
médaille.
Deuxième Guerre était finie.
Il était fini, oui, mais il était encore. Il n'est pas revenu le jour même, j'imagine. Donc, il a reçu une médaille étoile de bronze pour son service militaire. Il a grandi en écoutant la musique de jazz de l'époque, des Al Johnson, les musiques de films aussi, Judy Garland, Bing Crosby, Louis Armstrong, tout ça. Ça, c'était ses influences musicales. Et il avait un de ses oncles qui était un danseur à claquettes, qu'on peut appeler ça en français, tap dancer, dans des spectacles de vaudeville, tout ça. Et c'est ça, probablement, qui lui a donné le goût du showbiz. Dans le fond, à l'époque, on n'était pas juste un chanteur, hein, c'était des artistes de variété. On chantait, on dansait, on faisait plein de choses. Et il aimait aussi beaucoup dessiner. Et pendant qu'il était à l'école, au secondaire, il était devenu assez reconnu pour dessiner des caricatures. C'était devenu le
C'est
caricaturiste de
vrai,
son
oui.
école, oui.
Je pense même qu'il a
Et
dessiné quelques-unes de ses pochettes d'albums, au
oui,
moins
et
une.
d'ailleurs, il avait envisagé sérieusement une carrière en art commercial à un certain moment. Parce que probablement que tout le monde aussi, c'était probablement la même chose à l'époque que c'est aujourd'hui. La musique, c'est pas payant, tu pourras pas gagner ta vie avec ça. Donc, probablement que l'influence de son entourage le portait plus à aller vers une carrière en dessin. Mais finalement, il a commencé à chanter à l'âge de 13 ans, probablement là, à cause de l'influence de son oncle aussi. Il commençait à chanter à l'âge de 13 ans dans des restos italiens. Il était serveur et chanteur, donc j'imagine qu'il se faisait plus de pourboire de cette façon-là. Il
Des
avait
restos
trouvé une bonne.
italiens de New York?
Oui, donc il devait se trouver pas mal de bons clients en faisant ça. Et à partir de 1951, là, il a signé un contrat de disque avec la maison Columbia. Et c'est là que sa carrière a vraiment débuté. Et on peut dire que ça a débuté assez fort. Il a eu un numéro un déjà en 1951 avec la chanson Because of You, que je ne connaissais pas, et qui serait restée pendant 10 semaines sur les palmarès, qui a joué beaucoup à la radio à l'époque. Il aurait vendu plus de 1 million de copies de
À
cette.
25 ans.
Et la même année,
Wa,
il a
wa, wa.
publié, Blue Velvet, qui est une chanson qui est très populaire, qu'on connaît encore bien aujourd'hui. Donc, je vais vous faire écouter un extrait de comment il sonnait en 1951.
And I can smile because of you. And I still can see blue velvet through my tears. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to
Impressionnant, hein, une voix mature déjà pour quelqu'un
Oui.
qui avait que 25 ans.
Oui, et je pense que ce que j'ai lu quelque part, c'est qu'il était beaucoup impressionné par certains chanteurs qui étaient très populaires à l'époque, comme Frank Sinatra, Dean Martin aussi. Et je pense il avait tendance un petit peu au début, je pense que tout le monde fait ça un peu, il avait tendance à imiter les
Bien oui.
chanteurs qu'il aimait. Puis on voit aussi, bon, c'est certain que sa voix a changé avec les années, mais on voit que vers la fin, sa voix avait beaucoup plus sa personnalité à lui. Mais à l'époque, c'était un petit peu l'imitation des chanteurs qui étaient populaires à ce moment-là.
Il cherchait encore ses marques, là.
Il cherchait ses marques, il débutait, puis c'est
Bien
un
oui,
peu
c'est
normal.
normal.
Et pendant ces années-là, il a travaillé beaucoup, c'est certain, il était en demande beaucoup. Quand on joue beaucoup à la radio, les demandes sont là, bien entendu. Et c'est en 1962 qu'il a vraiment lancé sa chanson signature. Et curieusement, d'après ce que j'ai compris, ça n'avait pas nécessairement marché beaucoup au début. Ça ne s'est pas vraiment positionné sur les palmarès, ça jouait pas nécessairement beaucoup à la radio, et pour une raison qu'on ignore, à un moment donné, ça s'est mis à jouer beaucoup, et c'est devenu sa chanson signature. C'était I Left My Heart in San Francisco.
Ouais.
Et ça, c'est un phénomène qui arrive à l'occasion d'une chanson qui marche pas beaucoup au moment où elle est lancée. Et puis, finalement, on l'entend tellement pendant des années, ça finit par devenir la chanson qui nous fait identifier un artiste. Et il y avait lancé un album qui portait le même titre, I Left My Heart in San Francisco. Et c'est l'album, je pense, qui s'est vendu beaucoup. C'est devenu un top 5. Et l'album et le 45 tours aussi, finalement, ont été certifiés or, mais ça a pris un certain temps. Et la chanson a quand même gagné le Grammy Awards, la chanson de l'année, pour meilleure performance vocale solo. Donc, c'était pas la chanson elle-même, mais c'était plus la performance du chanteur qui lui a fait gagner un Grammy.
L'interprétation.
Et ça, c'est une chose que j'avais lue à un moment donné. C'était vraiment un interprète, on s'entend, là, il n'a pas composé de chansons, Tony Bennett. Mais son interprétation a été reconnue même par les plus grands. Frank Sinatra disait que c'était pour lui l'interprète qui réussissait à l'émouvoir le plus.
Wow! Venant de Frank Sinatra, là, c'est extraordinaire. Ouais.
Mettons que c'est une tape dans le dos qui est assez importante. Et bien entendu, et c'est ce que je mentionnais au début, moi je ne l'avais pas connu beaucoup, et ce qui explique ça un peu, c'est qu'il y a eu un gros creux dans sa carrière à partir du milieu des années 60, même début des années 60, après « I Left My Heart in San Francisco », à partir de 1963-64. Là, ça a été l'invasion britannique, le fameux British Invasion. Quand les Beatles sont arrivés aux États-Unis, ça a ouvert une porte à plein de groupes, à une nouvelle musique, dans le fond.
Ouais.
Là, ce qu'on entendait à la radio, c'était de la musique pop, beaucoup influencée par le rock and roll et non plus par le jazz, le swing, tout ça.
Donc, on a dit « Toss-toi le crooner ».
On a dit Toss-toi le crooner, c'est bien dommage, mais même s'il continuait à enregistrer, il continuait à faire des spectacles, on n'entendait plus parler de lui. Sa carrière était vraiment dans un creux, et ça a duré pendant des années. Et je me souviens, petite anecdote en passant ici, ça se passait, je pense, peut-être milieu des années 70, début-milieu des années 70. À l'époque, c'est pas mal milieu des années 70. Quand on a commencé chez nous à écouter un peu plus de musique québécoise, Beau Dommage, Harmonium, Valiquette, tout ça, je sais pas si vous vous souvenez un peu, mais à l'époque, c'était un peu la mode aussi qui commençait les échanges de cadeaux à Noël. Au lieu de donner 12 cadeaux à plein de monde, on disait on pige des noms pour donner un cadeau.
Je me souvenais plus de la date de l'année.
C'était pas mal, en tout cas, dans les années 70-80, c'était pas mal ça. En tout cas, bref, tout ça pour dire que il y a quelqu'un d'une famille que je ne nommerai pas où j'étais impliqué qui avait demandé dans sa liste de cadeaux, il aimerait avoir un disque de Tony Bennett. Et tout le monde s'est regardé, on dit, qui c'est ça, Tony
Bennett? Ah oui!
Personne connaissait Tony Bennett, puis je l'avoue, moi-même, j'avais jamais entendu ce nom-là de ma vie. C'est seulement, il a fait un retour à la fin des années 80-90. Et là, ce qui est arrivé, c'est que à la fin des années 70, il était vraiment dans un creux de vague, pas seulement sa carrière, sa vie, sa santé, il n'allait pas bien du tout. En 79, il a fait une overdose de cocaïne qui lui a été presque fatale.
Mm.
On ne croirait pas ça de lui en le voyant. Il n'a pas vraiment l'air d'un monsieur sur
la côte.
Il
n'a pas le profil.
Il n'avait pas le profil, mais il était vraiment rendu au bout du rouleau. Là. Ça ne marchait pas du tout. Et là, il a appelé ses fils. Il leur a dit, là, je suis vraiment perdu. Ça ne fonctionne pas dans ma vie. Je pense que il n'y a plus personne qui veut entendre la musique que je fais. Et lui, c'était sa vie. Donc là, il était vraiment perdu. Et c'est ses fils qui ont relancé sa carrière. Il y a un de ses fils qui était ingénieur de son en studio. Et un autre de ses fils qui lui a décidé plutôt de reprendre sa carrière du nouveau côté administratif et promotion parce que je pense que c'est un M. Tony Bennett très talentueux en musique, mais pas très organisé, pas très
comme beaucoup d'artistes.
Côté finant, comme beaucoup d'artistes, il l'avait pas du tout. Donc,
mais la preuve que c'est important de dire quand les choses vont mal, il ne faut pas,
absolument,
faut pas avoir honte.
S'il n'avait pas demandé ça à ses fils, probablement que tout le monde de son entourage l'aurait regardé s'auto-détruire comme ça.
Ouais.
Peut-être que ça n'aurait jamais relevé, là. Mais son fils a décidé de tenter toutes sortes de choses pour relancer sa carrière. Et il a fait, à un moment donné, la musique il n'a pas fait la musique, mais il a participé à la musique d'un film, That's Life. La musique avait été faite par Henry Mancini et il avait chanté la chanson Life in the Looking Glass et ça lui a mérité une nomination en 1986.
Et c'était reparti.
C'était reparti. Il a enregistré trois albums en 90, 92 et 93, et il a gagné des Grammys pour, il appelait ça Best Traditional Pop Vocal Performance, bon, donc meilleure performance vocale en musique pop traditionnelle. Ça fait un grand titre, là, mais donc là, ça commençait à revenir un petit peu. Et en 1994, je pense que là, son fils a eu vraiment un coup de génie. Qu'est-ce qui fonctionnait beaucoup dans ces années-là? C'était les vidéos, MTV. Tout le monde était branché sur MTV, Much Music, tout ça. Donc, il a fait participer Tony Bennett à un spectacle Unplugged. Vous vous souvenez de la vague des shows Unplugged?
Débranché,
oui. MTV, ouais. Donc, Tony Bennett, que plus personne connaissait, a participé à un show Unplugged et ça fait un gros hit. Et d'ailleurs, il avait invité des chanteurs plus jeunes qui étaient très hot à l'époque, Elvis Costello et K.D. Lang. Il a fait des chansons avec eux. Donc, là, ils ont publié, après le concert Unplugged sur MTV, ils ont publié un album qui est devenu certifié platine, donc il s'est vendu beaucoup. Encore là, il a gagné un prix Grammy pour Best Traditional Pop Vocal Performance of the Year. Donc ça, à partir de là, il avait déjà commencé à travailler pas mal, là, mais à partir du MTV Unplugged, là, ça a vraiment relancé. Et on va écouter un bout de ce qu'il a commencé à faire par la suite.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
I gladly surrender myself to you, body and soul. My plea, never, never change.
Keep that breathless charm.
Won't you please arrange it? 'Cause I love. Just the way you look tonight. Let someone with a deep love to give
give that deep love to you.
And what magic you'll see.
Let someone give his heart.
Someone who cares like me. Someone who cares like me.
Bravo. Comme disait Mathieu, Daniel et Isabelle, c'est une musique intemporelle et c'est une musique aussi, moi j'ajouterais, parfaite pour nous réchauffer le cœur.
Absolument, oui. Et ces extraits-là qu'on vient d'entendre, ça, ce n'est pas tiré de l'album Unplugged. L'album Unplugged, je vous ai gardé ça comme dessert, on parlait de ça tantôt, comme dessert pour la fin, je vous ai gardé la version de sa chanson signature « I Left My Heart in San Francisco », mais la version qu'il a fait dans le spectacle Unplugged. Ce qu'on vient d'entendre, c'était l'extrait de l'album Duets 2, parce qu'à partir des années 2000, il a continué à enregistrer. En 2006, à l'âge de 80 ans, il avait lancé l'album Duets, donc des duos avec plein d'artistes comme Elvis Costello, K.D. Lang, Bono, Sting, Elton John, Billy Joel et même Céline Dion. Donc ça n'a pas relancé, sa carrière était déjà repartie, mais ça a été encore un gros hit, un autre jalon important dans sa carrière, tellement que 5 ans plus tard, en 2011, il a lancé Duets 2, donc un deuxième album de duo. Et c'est les extraits qu'on vient d'entendre, c'était tiré de cet album-là. Le premier extrait qu'on a entendu, c'était Body and Soul, avec nul autre que Amy Winehouse.
Oui, elle a regretté.
Oui, et apparemment, ce serait le dernier enregistrement qu'elle a fait avant de mourir.
Ça se peut bien.
Un document assez important. On a entendu aussi The Way You Look Tonight avec Faith Hill. Et « Watch What Happens » avec Natalie Cole. Donc ça, c'était des chansons qui étaient déjà très connues dans le catalogue de musique américaine. Je pense que toutes les chansons de jazz de cette époque-là étaient à peu près sur ces albums-là. Il y a eu je ne sais pas là, si c'est son fils qui a fait plus ces démarches-là ou si ça venait de lui, mais il y a eu encore là l'espèce de flair d'aller chercher aussi des artistes qui étaient très populaires à l'époque et qu'on n'aurait jamais vu dans ce genre de musique-là, comme Bono, Sting, exemple, Elton John. Donc, je pense que ça frappait un grand coup, ça aussi. Ça
et montrait... on découvrait que ces artistes-là étaient bons pour chanter ce genre de musique-là.
Absolument. Absolument.
En tout cas,
donc,
pas tous, là. Il y en a qui étaient plus étincelants que d'autres.
Oui, effectivement. Il y en a qui se démarquaient.
Se démarquaient, oui.
Oui, mais je pense que le coup de force là-dedans, c'était justement de démontrer que, bon, un, que Tony Bennett était encore pertinent, et deux, que ces jeunes artistes-là avaient quand même du plaisir à travailler avec un monsieur qui était, disons-le, quand même assez âgé à l'époque, là. Donc, ça, c'est quand je vous disais au début... Il a eu une carrière difficile par moment et pendant un très long moment, ça a été difficile, mais il a eu tellement une belle fin de carrière à partir des années 2000. Et il a même reçu un record, ben reçu, on dit pas ça comme ça, là, mais il a un record Guinness pour la personne la plus âgée ayant publié un album de nouveau matériel.
Ah oui, ah oui.
Quand même.
Et dans le record Guinness, dans le livre des records.
Ouais, dans le livre des records Guinness. Et malheureusement, à partir de... En février 2021, il a annoncé qu'il avait eu un diagnostic d'Alzheimer depuis 2016. Donc, sa carrière s'est terminée là, en 2021.
Mm-hmm.
Malheureusement, malgré qu'on dit malheureusement, il était quand même rendu à haut de 90 ans. On s'entend que pour un chanteur, là, déjà, il avait donné beaucoup.
C'est phénoménal. On va falloir se laisser là-dessus, Daniel.
Oui.
Je ne sais pas si vous aviez quelques mots pour conclure, mais on veut passer au dessert.
Bien, il a eu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame aussi pour sa contribution à l'industrie de la musique américaine. Donc, je pense que c'était tout un honneur, ça aussi.
Un grand merci, Daniel Lachance. Merci aussi à Isabelle Falardeau. On va donc écouter cette chanson... emblématique, et on salue Tony Bennett. On lui dit merci pour tout. I left my heart in San Francisco.